Combattre le mal.
Combattere il male.
Das Böse bekämpfen. Fighting evil.
Viva la libertà.
Long live freedom. Es lebe die Freiheit.
WEF World. Vive la liberté. Hôtel Sheraton, Toronto, Canada. Luke se réveille. Il cherche son téléphone cellulaire pendant quelques secondes. L'alarme de réveil continue de sonner, mais Luke finit par lui mettre la main dessus afin de l'arrêter. Visiblement, sa routine est chamboulée et il déteste cela. Le vol avec M. Harrison Diaz s'est bien déroulé. L'avion est stationné au bon endroit. Louis Saint-Onge est dans sa chambre et Catherine était de bonne humeur. Mais Luke déteste la ville de Toronto. Cet hôtel et tout ce qui se rattache à cette ville. « Maudite eau chaude, » dit-il. « Chaude, froide, tiède, chaude. » Je ferai n'importe quoi pour partir le plus vite possible d'ici. Luke s'en va en direction de la salle de bain. Il trébuche dans ses souliers. Il se retourne, ramasse une serviette qu'il a laissée au sol. Il regarde le cadre qu'il trouve très laid accroché sur le mur à la gauche, tout en maugréant. Bref, son réveil est complètement chaotique et il a rapidement besoin d'un café. Soudainement, on cogne très fortement à la porte de sa chambre. Luke se retourne, il s'enfarge à nouveau dans ses propres pieds, mais il reprend le contrôle de la situation. Il enlève le loquet de sécurité de la serrure et ouvre la porte. « Oui? » demande-t-il. « Salut Chewbacca, tu ne prends pas tes textos? » demande un inconnu. Non. D'habitude, c'est Catherine qui s'en charge et je suis pas très à l'aise avec les téléphones cellulaires. Le mien fonctionne encore à la vapeur. Vous êtes? » demande Luke tout en se grattant le mollet droit. « Pierre Bilodeau, 67 532 Canada Incorporé. Notre dépense sera devancée de plusieurs heures. Vous serez dédommagé en ce sens. La compagnie se charge de toutes les tracasseries avec Transport Canada et votre rémunération sera doublée. » Luke se décrotte l'œil gauche tout en ajustant son T-shirt à l'effigie de Bob Dylan. Bilodeau lui demande « Où se trouve Catherine? » Luke répond « Son palace se trouve dans la chambre d'à côté. » Luke se dit en lui-même « Elle sera vraiment en colère. Catherine déteste ce genre d'improvisation. » Bilodeau lance. « Essayez de changer ce vieux Bob pour un vêtement plus convenable. Prenez une douche. Départ vers l'aéroport dans 45 minutes très précises. » Luke répond. « J'avertirai Catherine moi-même. Je la connais bien. Mieux ne vaut pas réveiller le tsunami avant le grand départ. » Bilodeau lance. « Je vous attends dans le véhicule de service stationné à l'entrée. Soyez à temps. »« Chef, oui, chef! » Luke salue Bilodeau de manière pathétique. Il ferme la porte d'une main et compose le numéro de Catherine de l'autre. « Allô, Kat, tu sais quoi? » pieds, à 23 km à l'ouest de Suceava, Roumanie. L'opérateur radar numéro 4 du E3 Sentry de la US Air Force continue de suivre la trajectoire de la volée de missiles RIM-2 ukrainien. L'officier est au téléphone avec le centre de contrôle de la base Ramstein en Allemagne. La confusion règne. Cette attaque ne figure pas au registre des frappes déjà établies par l'Alliance. Kiev, Ukraine, au même moment. Elena et son équipe tactique arrivent à l'aéroport et s'engouffrent à bord d'un avion de type C-27J Spartan, immatriculé au nom d'une société de transport civil hongroise. Scramble à toute vitesse, direction ouest, vers la Suisse. Genève, Suisse, à la boutique Les Raretés Historiques. Paul Schwab adore ce moment. Son petit rituel hebdomadaire consiste à descendre en ville, puis visiter la boutique de livres et revues anciennes du coin, tout en savourant un bon café latté. « Herr Paul, bon matin! Il fait froid dans la montagne. Comment s'est passée votre descente? Demande Joey, l'Américain qui travaille dans la boîte depuis plus de 30 ans. Comme d'habitude, long, froid. La tension urbaine m'envahit à chaque pas, mais on s'y fait tranquillement. Je suis un ermite de mauvaise qualité. Le pleutre de la montagne l'a soifé de nostalgie, répondit Paul. Allons, Paul, calmez-vous, dit Joey. Je vous prépare votre potion hebdomadaire de bonheur. L'employé pointe un manuscrit. Discrètement, le montre à Paul, qui demande « Qu'est-ce que c'est que ça? » Joey répond « Une édition de recueil de la Société de Toulé. » C'est un original, très rare, mais extrêmement controversé. Cela vous intéresserait-il? Paul, incapable de gérer ses émotions, répond « Mais je suis un adepte du vril. Quelle question, absolument! » Joey finit de mousser le lait tout en répondant « Il vous faudra aller dans l'arrière-boutique, cependant. Impossible de consulter cela ici. C'est un livre du Troisième Reich. » Paul se tresse la barbe tranquillement tout en répondant « D'accord, j'ai froid, j'ai besoin d'un peu de tranquillité, alors il faut aller derrière, on y va? » Joey répond « Suivez-moi, Herr Schwab, mais avant, il vous faut boire ce merveilleux latte. Il est strictement interdit de boire et de consulter nos livres anciens. C'est le règlement de la maison. » Paul, embêté, répond « Je comprends. Et bon, comme j'ai froid et qu'il semble tellement délicieux ce latte, je n'ai rien contre. » Paul savoure rapidement son latte, puis essuie la mousse de lait emprisonnée dans sa barbe. Joey le regarde et lui dit « C'est chaud, hein? Il est bon ce café? » Paul Schwab répond « Fabuleux. » Joey invite « Suivez-moi, monsieur, nous allons dans le bureau du patron. » « Mais, ah oui, c'est vrai, Hans, notre concierge, prendra soin de vous, car je dois garder la boutique en avant. » Puis la porte qui mène derrière s'ouvre, laissant place à un homme de taille très impressionnante, un roc de muscles, au regard d'acier pas très sympathique. Paul Schwab regarde l'individu s'approcher. Il dit « Monsieur Hans? » Le géant répond « Non, non, je ne suis que le concierge. Mais cependant, moi et le patron, nous sommes à votre service. Le client a toujours raison ici. » L'ermite suit le géant, qui ne semble pas trop apprécier l'odeur corporelle et caverneuse de Paul. Paul remarque que le patron est penché sur une chaise, dos à son bureau. Il semble fouiller dans une mallette. Schwab s'assoit dans la chaise qui fait face au bureau. Le concierge, Hans, au sourire rempli de dents cariées en très mauvais état, met sa main sur l'épaule droite de Paul comme pour le forcer à s'asseoir très rapidement. Et soudainement, le patron se retourne. C'est Riedel, le chef de la sécurité du Forum économique mondial, qui dit « Bon matin, crétin, espèce d'imbécile, tu pues toujours autant. » Le concierge lui inflige une décharge électrique à l'aide d'un VaporTech 989. L'univers de Paul Schwab bascule dans le noir. En très haute altitude, au-dessus de la ville de Donetsk, l'ogive nucléaire à bord du sixième missile RIM-2 plonge comme un météore à l'altitude de 35 500 mètres, sa base arrondie pointée vers l'avant. Le système d'armement implanté par les compagnons d'Elena et ses amis ukrainiens aborde maintenant la séquence finale. Toutes les données correspondent aux prévisions du minuscule ordinateur de bord. Tout semble normal et les derniers verrous de sécurité de l'ogive débloquent. L'ordinateur envoie une brève impulsion électrique. L'ogive est désormais armée. Le système d'amorçage envoie un signal régulier au système de mise à feu afin de recharger sa batterie d'une énergie suffisante pour déclencher le détonateur au moment venu. Deux altimètres commencent à calculer l'altitude de l'ogive. L'ordinateur compare les éléments fournis par les deux appareils aux estimations du guidage par inertie. Les trois altimètres enregistrent simultanément une altitude de 24 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le système d'amorçage envoie alors un signal au mécanisme de mise à feu. Celui-ci expédie un message de faible énergie aux douzaines de circuits de mise à feu reliés aux détonateurs installés dans les puissants explosifs à l'intérieur de l'ogive. Les circuits émettent tous un signal d'essai positif. Tout est prêt. Le mécanisme de mise à feu attend l'ordre du système d'amorçage. Ce dernier calcule les données des trois altimètres. L'ogive nucléaire installée à bord du RIM 2 doit exploser à 1350 mètres au-dessus du sol, juste au-dessus de l'hôtel Donbass Palace, lieu prisé du gouvernement local. Mais la trajectoire a été déformée par l'inexactitude des calculs et elle est déviée de quelques centaines de mètres. L'ogive atteint l'altitude de 1350 mètres au-dessus du niveau de la mer, environ 1275 mètres au-dessus du centre commercial Green Plaza situé au sud de la ville. L'ultime impulsion électrique est envoyée par le système d'amorçage au mécanisme de mise à feu. À 1349 mètres au-dessus du niveau de la mer, les puissants explosifs au sein desquels sont enfoncés les détonateurs s'allument et entament une combustion extrêmement rapide. La progression de la zone de réaction des explosifs va jusqu'à dépasser la vitesse du son dans le matériau encore intact. Le taux de déflagration est si fort qu'il provoque une explosion. L'ogive parcourt encore moins d'un mètre. Les explosifs ont terminé leur combustion. Si l'on avait pu à cet instant prendre une photo de l'extérieur de l'ogive, on n'aurait rien remarqué d'anormal. Les explosifs sont orientés de façon à projeter leur énergie vers l'intérieur. L'onde du souffle n'a pas encore accumulé une pression suffisante sur les parois extérieures pour déformer l'ogive. L'onde de pression à l'intérieur du puits, cette carapace d'explosifs entourant le cœur de l'ogive, se précipite vers le centre géométrique de la sphère à une vitesse supersonique. Cette onde pousse d'elle l'uranium-235 autour duquel les techniciens ont enveloppé les explosifs. Chaque centimètre que parcourt l'ogive, la compression de l'uranium-235 à l'intérieur se poursuit. Les brèches entre les atomes d'uranium se réduisent. Les 235 neutrons libérés par les explosions des atomes d'uranium profondément instables commencent à heurter d'autres atomes. De nouveaux atomes commencent à éclater, projetant d'autres rafales de mitraille subatomique qui, au hasard, touchent ou manquent leurs voisins. La fission nucléaire a commencé et les lois de la statistique définissent le processus destructeur. Puis, l'uranium-235 augmente en densité. Moins sont grandes les chances que les neutrons s'échappent par les brèches et jaillissent hors de l'ogive sans causer de dégâts à leurs voisins. À une altitude de 1348 mètres, le noyau d'uranium-235 atteint sa masse critique. Chaque fois qu'un atome d'uranium-235 se désintègre, maintenant, plus d'un des atomes qui l'entourent se trouve brisé. Le taux de désintégration radioactive commence à doubler, puis à doubler, tandis que les particules subatomiques fracassent les atomes et projettent d'autres noyaux de matière à l'extérieur. Le développement est exponentiel, c'est une réaction en chaîne. La température créée par la réaction de fission atteint 1 million de degrés Celsius dans le noyau même de l'ogive nucléaire. C'est alors que commence la véritable explosion. La fission n'a été en soi qu'un détonateur produisant la chaleur nécessaire à amorcer la réaction thermonucléaire. Chaque fois que le jaillissement de cette chaleur d'un million de degrés rencontre deux atomes d'hydrogène omniprésents, les noyaux des deux atomes fusionnent pour ne former qu'un seul atome d'un élément plus lourd, l'hélium. Comme l'énergie totale contenue dans deux atomes d'hydrogène excède légèrement l'énergie d'un seul atome d'hélium, la différence est libérée au moment de la fusion sous la forme d'un surcroît d'énergie. Ces brèves pulsations d'énergie sont extrêmement puissantes. L'onde de combustion thermonucléaire se propage vers l'extérieur du noyau de l'ogive à une vitesse prodigieuse, portée par la crête d'une onde de rayon gamma à 20 millions de degrés Celsius. L'onde de combustion thermonucléaire se propage vers l'extérieur du noyau de l'ogive à grande vitesse, portée par les ondes de rayonnement gamma à plus de 20 millions de degrés Celsius. Cette onde de combustion frappe la seule barrière qui la séparait de la coque, encore intacte de l'ogive, une couverture d'uranium appelée le tampon. Le rôle du tampon est d'absorber et réduire considérablement le nombre de rayons gamma projetés vers l'extérieur. Cela atténue le radia produite par le modèle plus récent d'ogive nucléaire russe relativement peu radioactive. Parfois, comme la température dans le tampon s'élève, l'uranium-238, normalement stable, commence à se désintégrer et une nouvelle fission s'amorce. La troisième et dernière phase de l'arme fission-fusion-fission commence au moment où le tampon explose. Ce dernier stade a plus que doublé la puissance explosive de l'ogive de contrebande. Les atomes de gaz de l'atmosphère autour du Soleil artificiel sont violemment ionisés. En se trouvant dépouillés de leur carapace d'électrons, ils forment une sphère de plasma en pleine explosion et expansion qui pousse autour d'elle l'air non ionisé à un rythme fantastique. La limite de l'onde de choc est aussi clairement définie que les contours d'une bulle de savon. Elle se propage dans toutes les directions en frappant d'abord le sol situé juste en dessous d'elle. La terre ondule sous le choc comme la surface de l'avenue Protestavia. Le sol se liquéfie. La terre se comporte comme un liquide avant de reprendre son état normal quelques instants plus tard. L'ondulation sismique rayonne vers l'extérieur. Elle voyage à travers le sol compact plus vite que dans l'air. Une onde de compression longitudinale se combine avec les ondes transversales de surface pour fracasser les restes de ce quartier huppé de la ville. Une boule de feu qui se forme à l'extérieur de la sphère de plasma commence à s'élever dans les airs au-dessus du point zéro au rythme de quelques centaines de mètres par seconde. Au début, la boule de feu apparaît avec ses contours nettement définis par le front de choc lumineux. Elle se déforme maintenant pour devenir une boule déchiquetée tout en provoquant l'ignition et la combustion de l'air lui-même tout le long du front de radiation. Au niveau du sol, des vents puissants, la pression dynamique du souffle commence à se déchaîner, formant un tourbillon qui se déplace derrière l'onde de choc à la vitesse de 480 km à l'heure. Le centre-ville de Donetsk n'est plus. Le Kremlin, Moscou, Russie, quelques minutes plus tard. Un homme accourt, ouvre une porte vers un bureau. En panique, il affirme. Monsieur le Président, une explosion nucléaire vient d'avoir lieu au centre-ville de la ville de Donetsk. Les dommages sont épouvantables. Vladimir Poutine donne un coup de poing sur son bureau, il est furieux. Il estime que cette attaque pourrait faire dérailler ses plans afin de continuer à avancer en Ukraine. Il se dit qu'il devra faire face à une forte pression de la part de son propre état-major après la destruction de cette ville. Il présume qu'il s'agit d'une première frappe et que d'autres risquent de suivre dans les prochaines minutes. Poutine se retrouve séquestré au Kremlin, sans qu'aucun membre de son conseil de sécurité ne soit prêt à le contredire. Il décide alors de frapper le premier. Poutine se dit, Peut-être qu'une frappe brutale, dès le départ, va convaincre l'OTAN de ne pas chercher à continuer l'escalade. Le président russe envisage de lancer une salve de missiles de croisière et balistiques à armement nucléaire contre les principaux centres de décision politique et militaire de l'OTAN, puis de formuler ses exigences. Il demeure calme malgré la situation. À bord du véhicule de service, en sortant du stationnement de l'hôtel Sheraton à Toronto, Canada. « Bien le bonjour, Madame Royer. Enchanté de faire votre connaissance, » dit Pierre Bilodeau à Catherine. « On part rapidement. Ça constitue un imprévu, mais c'est quand même facile à gérer. Alors, on s'arrête au catering. Question d'avoir un peu de bouffe pour notre client, » demande-t-elle. « Aucunement, » répond Bilodeau. « Notre départ est presque un scramble de type militaire, décollage immédiat. » De toute manière, nous disposons d'une réserve de nourriture assez conséquente à bord, environ 4 jours de vivres pour 7 personnes. Mais comme nous ne sommes que 4, le patron aime bien être en mesure de pallier à toute situation, affirme Bilodeau. Vous devez avoir un très gros frigo à bord de votre Global Express, dit Catherine. Pierre Bilodeau esquisse un rire et répond « Aucun frigo, ma chère. » Car nous consommons des rations de type MRAs. Nous n'avons que quelques sacs de chips et une bouteille de cognac pour la route. Cet avion est très spécial. J'espère que vous n'êtes pas claustrophobe, car côté hublot, c'est le minimum requis par la loi, spécifie le commandant. Dit-elle, aucune nourriture digne de ce nom? Bilodeau regarde Luc. Luc regarde Catherine, qui lui explique. J'ai parcouru le devis technique du Global 6500 de la compagnie. C'est effectivement un appareil très spécial. Ils l'ont récupéré d'un programme militaire suédois, le Global Eye. Sois sans crainte, Catherine, ils savent ce qu'ils font. J'ai étudié toutes les données que vous m'avez envoyées, M. Bilodeau, et franchement, je suis très impressionné et j'ai hâte de travailler avec vous. C'est un honneur pour moi et je vous garantis que je serai à la hauteur. Pierre Bilodeau esquisse un sourire et fait un clin d'œil vers Luc. Vous verrez, ce vol-là, il sera mémorable et le patron est super cool. Bon, on approche. Vos papiers pour la sécurité, s'il vous plaît. À l'intérieur du bâtiment principal du Forum économique mondial, rue de la Capite, Colonie, Suisse. C'est le branle-bas de combat au sein du personnel de l'organisation. Une alerte a été envoyée à tout le monde. Les employés s'activent et courent dans tous les sens. Ils effectuent des appels téléphoniques et placent une multitude de documents dans des caisses de transport. Le niveau de sécurité est relevé. Tout le monde est à la recherche de Riddle. Le docteur Hessen est occupé à transférer Klaus Schwab et sa suite médicale dans l'abri souterrain situé juste de l'autre côté de la rue. Ce lieu secret constitue à la fois un canot de sauvetage important pour l'organisation et le centre de communication et de commandement de cette dernière. On accède à l'abri via un tunnel creusé sous la rue de la Capite qui relie le garage du bâtiment principal au centre de communication. La porte s'ouvre. Un fantassin armé d'une arme automatique surveille la porte. Zug Lenders crie à la radio. « Mais où se trouve Riddle, bon Dieu de merde? C'est lui le chef de la sécurité, il est même pas foutu d'être à son poste quand on a besoin de lui. » Puis, à la radio, il entend « Arrête de gueuler, Zug, j'arrive au garage avec un cadeau. » Zug se dirige vers un camion Mercedes noir qui arrive tout juste dans le garage. Une porte s'ouvre, le monstre Hans en sort maladroitement sous la cascade de rire de Riddle, qui affirme « Toi, tu coûtes cher à nourrir et l'autre pue les poubelles. Quel voyage! » Hans, le géant, sort du camion visiblement gêné par l'odeur omniprésente. et répond. Impossible de bouffer avec cette puanteur-là. Ça sent la charogne, mais j'ai faim maintenant. Riddle remarque le va-et-vient qui prévaut dans le garage et demande à Zug. C'est un foutoir ici. Le carnaval de Rio s'en vient ou quoi? Il faut nourrir le monstre et laver l'ermite. Ah oui, c'est vrai. Je suis au courant pour l'alerte. Fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Zug Landers est complètement découragé. Le géant ouvre la porte du camion noir, découvrant le vieil homme des montagnes qui se réveille. Tout en se frottant la tête, Paul Schwab demande « Mais que se passe-t-il? » Tu iras prendre un bain avant d'aller voir ton frérot et je te conseille d'être poli et surtout d'être sage, lance Riddle, tout en jetant sa cigarette au sol. Zug a horreur des mauvaises habitudes de son confrère et lui répond « Ça va péter, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'environnement? » Puis il pointe l'ermite qui sort du camion. « L'accident environnemental, il est là, c'est lui! » Hans et Riddle rigolent à chaudes larmes et laissent Zug s'occuper de cette épave nauséabonde. À l'intérieur du centre opérationnel au Kremlin, Moscou, Russie. Vladimir Poutine a l'intention de bouger. Mais d'abord, il doit s'assurer que ses missiles atteignent leur cible. Les défenses antimissiles de l'OTAN doivent être rendues inutiles en les aveuglant. Pour ce faire, il ordonne l'utilisation des missiles antisatellites S-550. Ils sont tirés et les satellites américains d'alerte précoce sont transformés en débris spatiaux. Ensuite, la cyberunité 7455 active un logiciel malveillant. Cette unité était restée en sommeil et non détectée dans les systèmes informatiques militaires des États-Unis et de l'OTAN depuis le piratage de SolarWinds. Elle exécute une cyberattaque contre les systèmes terrestres de détection des missiles de l'OTAN en Europe. Alors que son attaque préventive se déroule, les missiles de croisière et balistiques n'ont même pas encore été lancés. Le président russe est convaincu que l'OTAN recevra son message. Rester en dehors de l'Ukraine et cette guerre n'aura pas à s'intensifier davantage. Mais ce n'est pas ainsi qu'il a été perçu à Washington. À l'insu de Moscou, la cyberattaque se propage au-delà des cibles visées, gelant les systèmes de commandement et de contrôle du commandement stratégique américain, coupant sa communication avec les sous-marins dotés d'armes nucléaires dans le monde entier et forçant les équipages des missiles balistiques intercontinentaux à se précipiter sur des systèmes analogiques redondants. Ces attaques ne peuvent signifier qu'une seule chose, une frappe nucléaire russe sera la prochaine étape logique. Poutine sait que les Américains n'ont jamais adopté une politique de non-utilisation en premier ou de but unique. Et il ne les aurait peut-être pas crus s'il l'avait fait. Mais il ne s'attendait pas à ce que son attaque limitée déclenche une réponse aussi massive. Il se dit, pourquoi les Américains sont-ils passés au niveau DEFCON 1 en faisant décoller leurs bombardiers à capacité nucléaire et leurs postes de commandement aéroportés? Mais ce n'est pas la seule complication pour le président russe. Les gouvernements ne sont plus les seuls protagonistes de la guerre au 21e siècle et les actions des acteurs non étatiques ne font qu'aggraver une situation déjà très tendue. Témoin des missiles antisatellites, le collectif mondial des pirates informatiques Anonymous, déjà en guerre avec la Russie, réagit de la même manière, en mettant hors service les satellites russes et en déclenchant de nombreuses fausses alertes. Bien qu'ils aient déclaré publiquement qu'une telle action équivaudrait à un acte de guerre, les conseillers du président russe Poutine appellent à une certaine retenue. Déjà dans un état de paranoïa croissante, Poutine n'est pas d'accord. Les États-Unis doivent être en train de lancer une première frappe nucléaire. Cela semble insensé, ne serait-il pas à quel point cela lui forcerait la main? Quoi qu'il en soit, il n'y a rien à faire pour l'instant. À Washington, le président américain Joe Biden se précipite au centre présidentiel des opérations d'urgence situé sous l'aile est de la Maison-Blanche avec son aide militaire qui porte la mallette nucléaire et les membres de son cabinet disponibles. Le commandant du Stratcom apparaît sur l'écran et donne son avis. Bien qu'ils ne puissent pas confirmer l'arrivée de missiles russes en l'absence de satellites fonctionnels, les modèles d'intelligence artificielle du Stratcom indiquent que tous les indicateurs montrent que la Russie lance ses ICBM dans une première frappe nucléaire contre le territoire américain et l'OTAN. Il poursuit. En ce moment même, des centaines d'ICBM russes sont probablement en train de se précipiter au-dessus du pôle Nord vers nos silos de missiles Minuteman, nos bases aériennes et nos ports pour détruire tout notre arsenal nucléaire. Une fois notre dissuasion nucléaire fortement détruite et réduite, la Russie sera en mesure de faire n'importe quelle demande en toute quasi-impunité. Nous ne pouvons pas arrêter les missiles entrants, mais nous pouvons faire décoller nos ICBM vers leur cible en Russie afin qu'ils ne soient détruits. Nous avons environ 7 minutes avant qu'ils ne soient touchés. Vous devez décider maintenant. Utilisez-les ou perdez-les. Biden marque une pause, contemple la gravité de la situation à laquelle il est confronté, il se demande comment il a pu en arriver là et donne ses derniers ordres. À Moscou, Vladimir Poutine rend sa décision. Il décide d'exécuter une frappe préventive sur les villes de l'OTAN, puisque les armes nucléaires américaines sont déjà en route, selon lui. Il n'a pas besoin d'utiliser d'ogives nucléaires russes sur les silos des ICBM américains, les ports des sous-marins et les bases de bombardiers où se trouvent les armes nucléaires américaines, du moins le pense-t-il. En fait, les ICBM américains n'ont jamais quitté leur silo de lancement. Biden a décidé de ne pas les lancer avant d'avoir plus d'informations. La frappe massive de l'arsenal nucléaire stratégique russe est définitive. Toutes les unités s'activent et les missiles s'envolent vers leurs cibles situées en Europe et en Amérique du Nord. Poutine observe attentivement dans un silence mortel la situation, le déroulement des opérations sur les trois écrans qui surplombent le centre opérationnel russe. L'aide de camp du président Poutine ainsi que son porte-parole Dmitri Pieskov vont le voir. Discrètement, Pieskov demande à Poutine « Monsieur le Président, désirez-vous rester ici ou préférez-vous quitter vers Yamanto? » Ce centre et son personnel seront détruits d'ici environ 35 minutes. Dans l'éventualité où vous devez quitter, il faudrait le faire tout de suite. Fin de l'épisode numéro 3. Voici maintenant la question pour le sondage en lien avec cet épisode. Le président russe Vladimir Poutine devrait-il quitter le centre opérationnel de Moscou? Oui ou non? Merci d'avoir écouté ce troisième opus de WEF World. Le quatrième sera disponible très bientôt. À la prochaine!